La hausse des températures ne cesse d'atteindre de nouveaux records, et cela au lendemain de la COP28. La température n'arrête pas d'augmenter, la planète Terre étouffe, elle suffoque. L'atmosphère se réchauffe, l'air se vide de son oxygène, les populations ont de la peine à respirer. La situation semble s'aggraver beaucoup plus que ce qui a été prévu il y a quelques années. Bref, la Terre se réchauffe à une vitesse incroyable. L'on assiste de plus en plus à des phénomènes climatiques extrêmes, tels que l'érosion du littoral qui se produit à une grande échelle. Des répercussions sur les populations côtières sont visibles. Les communautés sont prises au piège des inondations qui n'épargnent personne. Les énormes volumes de précipitations en temps de pluie, la montée des eaux, les cours d'eau qui débordent obligent très souvent les populations et les différentes communautés à quitter leurs habitations et l'on assiste à des déplacés et à des réfugiés climatiques. Le réchauffement climatique n'est pas près de s'arrêter. La plupart des pays, dont la Côte d'Ivoire, sont concernés. Ont-ils les moyens de s'adapter ? Que sera notre planète et notre pays d'ici 2030 ? Ce n'est pas loin. C'est bien sûr dans quelques années. C'est donc pour trouver des solutions à toutes ces problématiques et à bien d'autres que je reçois Tiekwaku Bernard, chef du département de la climatologie et des applications météorologiques à la Sodexam. Il est également le point focal du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat et membre du groupe permanent de l'Organisation météorologique mondiale sur les services climatiques.
Radio de la paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Monsieur Tiekwaku Bernard, bonjour.
Bonjour.
En tant qu'expert et point focal national du GIEC, en tant que chef du département de la climatologie et des applications météorologiques à la Sodexam, comment expliquez-vous cette vague de chaleur qui sévit de jour comme de nuit en ce moment en Côte d'Ivoire?
Il faut dire que la Sodexam est le service météorologique national. C'est le service de l'État qui est en charge de veiller sur le climat et d'étudier son comportement. Donc, en tant que structure nationale responsable du suivi climatique, nous élaborons régulièrement des notes d'information, des bulletins, afin de sensibiliser le public et les gouvernements sur l'évolution du climat. Alors, la question que vous me posez est vraiment cruciale. Comment on explique cette vague de chaleur? Il faut dire que, de par nos études, la période que nous traversons actuellement, c'est-à-dire en début d'année, février-mars, constitue la période la plus chaude au niveau même de l'Afrique de l'Ouest, mais notamment la Côte d'Ivoire. Mais cette année, la situation est particulièrement préoccupante parce que depuis octobre 2023, la Sodexam a émis une note d'information faisant référence au phénomène climatique El Niño. Mais comme l'atmosphère n'a pas de frontières, ce phénomène-là a des répercussions sur toute la planète et notamment sur notre pays. Alors comment se manifeste ce phénomène? Quand ce phénomène existe et en fonction de son intensité, la partie sud de la Côte d'Ivoire connaît une pluviométrie assez continue, mais la partie centre et nord enregistre des déficits pluviométriques. Pour ce qui concerne la température, toute année El Niño est corollaire d'une hausse de température. C'est une étude que nous avons menée nous-mêmes. On a observé le phénomène El Niño de 72-73, il y a un peu longtemps. On a aussi observé El Niño 82-83. En tout cas, pour cet épisode-là, beaucoup de personnes se rappellent les canicules et se rappellent aussi des nombreux phénomènes de feu de brousse. Parce qu'il y avait les ruptures au niveau des barrages. Les problèmes énergétiques de la Côte d'Ivoire avaient été mis en exergue à cette période-là. C'était la période des délaissages. C'était ce phénomène-là. 97-98. On se rappelle bien, ça a été une année très chaude. Très, très chaude. Après, il y a eu 2010. Quand on a atteint 2010 avait été identifié comme l'année la plus chaude depuis les observations. On pensait qu'on était arrivé et il s'est trouvé que en 2016, le même phénomène est venu avec sa hausse de température. Mais la plus forte hausse de température a été observée en 2021. 2021, au niveau mondial, a été enregistré comme l'année la plus chaude. Chaque fois qu'il y a des abcès de température, il y a des hausses de température assez anormales, nous sommes tentés de voir quel est l'élément climatique extérieur qui vient s'ajouter au comportement climatique régulier. Et généralement, c'est ce phénomène-là. Et cette année, le phénomène, il est là. Le phénomène-là, observé depuis la mi-2023, ça a atteint son maximum en décembre 2023 et les conséquences, nous vivons ça aujourd'hui. Donc, la période février-mars est la période la plus chaude de l'année. Mais cette hausse de température-là est accentuée par le phénomène El Niño qui nous envoie des vagues de chaleur.
D'où vient El Niño? Qu'est-ce que c'est El Niño? Comment est-il apparu?
D'abord, le nom El Niño, c'est un terme espagnol. El Niño est un phénomène climatique qui résulte, n'est-ce pas, d'une hausse anormale des eaux de la mer dans le Pacifique, au large du Pérou. Le Pérou est un pays, disons, Amérique centrale, à façade désertique. Et il se trouve qu'il y a des années particulières, on a vu la périodicité autour de 5 à 7 ans, il y a une invasion d'eau chaude de manière anormale. Il y a de l'évaporation. Et donc, cette évaporation va produire des nuages et donc il va avoir une pluviométrie anormale au Pérou. Alors que c'est un pays qui est régulièrement désertique, c'est-à-dire que très peu de pluie. Mais ce dysfonctionnement local va provoquer des répercussions tout autour de la Terre, parce que, vous savez, l'atmosphère n'a pas de frontières. Il y a une circulation autour de l'atmosphère et il y a une cellule scientifique qu'on appelle la cellule de Walker qui permet de transporter l'énergie d'un lieu à un autre tout autour de la Terre. Et donc, cette chaleur, cette hausse de température de la mer va être transportée, que ce soit au niveau de la circulation marine ou au niveau de l'atmosphère, va tourner autour de la Terre et avoir des impacts sur différentes régions dans notre région. Et en tout cas, c'est comme ça que le phénomène se passe.
Alors, dans ces conditions, quels pourraient être les impacts d'un tel phénomène aussi bien à tous les niveaux, hein, au niveau de la faune, de la flore, de même qu'en ce qui concerne la gestion des ressources en eau, de l'environnement, de la biodiversité, des ressources halieutiques et marines, au niveau de l'atmosphère, puis de la couche d'ozone?
Le phénomène El Niño est un phénomène climatique, disons, qui vient perturber le système. Ça devient un phénomène anormal. Si le phénomène est anormal, ça veut dire que ça vient perturber l'équilibre. Donc au niveau, par exemple, de l'écosystème, quand il y a le phénomène El Niño, la saison sèche devient rude. Ça s'allonge, ça veut dire qu'au lieu d'avoir peut-être 3 mois de saison sèche, on va avoir 4 mois. Non seulement c'est long, mais c'est rude parce que le déficit pluviométrique va être plus important. Et donc, les feuilles vont être plus sèches et donc en proie aux flammes. Donc, vous voyez qu'au niveau écosystème, il y a un problème. Alors, s'il y a les feux, ça veut dire que la faune est en danger, le sol est en danger, il n'y a pas d'eau, les ressources en eau. Et donc, un des gros risques, ça peut être un risque sanitaire. Quand il y a un manque d'eau, il y a une ruée vers le peu d'eau qui est là, qu'on peut trouver. Donc, nous, dans notre vie quotidienne, on a besoin de vivre. Les animaux sauvages ont besoin de vivre. Les animaux domestiques ont besoin de vivre. Donc, il va y avoir une pression sur le peu d'eau qui peut être là. Et donc, le contact entre les humains et les animaux peuvent entraîner des cas de maladie. Donc, au niveau sanitaire, il y a un gros problème. Il y a un problème de sécurité alimentaire. D'abord, il n'y a pas l'eau. Deuxièmement, le peu de nourriture qui est là, puisque la saison sèche va être longue, on va consommer. Et donc, il va y avoir un problème de réserve pour cultiver. Parce que si on devait cultiver, prenons les ignames, on devait faire les buts en mars, s'il faut attendre en mai, on a le temps de consommer, en tout cas, les réserves. Et donc, problème de sécurité alimentaire. Le fait que le sol soit sec, même si on a du taro, même si on a du manioc, ces tubercules, n'ayant pas suffisamment d'eau pour se développer, la production ne va pas être assez suffisante pour nourrir la population. Donc, c'est toute une panoplie de conséquences. En tout cas, dans tous les domaines, tous les acteurs, tous les êtres vivants sont exposés.
Alors, selon vous, quelles dispositions doit-on prendre pour éviter tout cela? En un mot, est-il possible d'éviter une telle situation ou même s'adapter?
On peut plutôt parler de s'adapter, puisque ce n'est pas un phénomène anthropique, ce n'est pas un phénomène créé par l'homme, c'est un phénomène naturel. Par contre, comme les moyens de prévision météorologie et climatologie se sont développés et que nous pouvons, n'est-ce pas, détecter le phénomène 6 mois plus tôt, c'est depuis juin 2023 que nous avons détecté le phénomène. Quand on a détecté le phénomène, il faut chercher à s'adapter. Une première piste, c'est par exemple la gestion de nos ressources, la gestion de l'eau. Vous savez, généralement, quand il pleut, on laisse l'eau couler. Ou bien dans nos villages, bon, il a plu beaucoup. Hier, il a beaucoup plu, mais le lendemain, on a oublié d'aller au marigot, n'est-ce pas? On peut chercher à gérer l'eau par les gouttières, on peut chercher à capter l'eau. C'est vrai que cette eau n'est pas potable pour la consommation humaine, mais cette eau peut servir, n'est-ce pas, pour faire la vaisselle, enfin pour d'autres usages. Donc, il faut maîtriser l'eau. Il faut bien gérer l'eau, ça veut dire qu'il faut maîtriser la gestion de l'eau. En tout cas, ça, c'est très, 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 très important parce que l'eau est la source de vie. Si on arrive à maîtriser la gestion de l'eau, ce serait déjà un grand pas.
En l'espèce, est-ce qu'il existe des technologies innovantes?
Oui, il y a d'abord nos technologies, même traditionnelles. Ça dit faire des gouttières, mettre des barriques en béton dans les camps. Je sais que dans mon village, dans ma maison, il y a 2 grosses barriques en béton. On peut faire 1 semaine de coupure d'eau. Chez moi, il y a l'eau toujours.
Et donc, pour quelqu'un qui est en ville.
Même quelqu'un qui est en ville. Chez moi, à la maison, j'ai la retenue d'eau. J'ai des barriques. Le même fût, là. J'ai fait ça chez moi, à la maison. Et puis, j'ai acheté les fûts en caoutchouc, là, aussi. Ce qui est important, il faut capter l'eau pour gérer. De telle sorte que l'eau potable qu'on va chercher, c'est pour la consommation, essentiellement pour la consommation humaine. Ça, c'est un élément très, très important. Parce que vous pouvez passer une journée sans manger, mais ne pas boire de l'eau, ça devient un problème. Donc, il faut déjà faire ça. Deuxièmement, apprenons à verdir notre environnement. Plantons des arbres, parce qu'actuellement, il fait très chaud. Si nous devons rester dans nos habitations, on a oublié de mettre la climatisation. Ça veut dire que c'est notre poche qui va souffrir. Or, si nous habituons à rester en plein air, comme au village, sous les manguiers, sous les cacaoyers, tout ça, mais je pense que c'est vrai que tout le monde ne va pas le faire, mais quand même, une ville comme Abidjan, si on a des bois, si on a des jardins publics où il y a la végétation, où les gens peuvent aller se mettre à l'abri des rayonnements solaires, je pense que ce serait déjà quelque chose. Donc, c'est par exemple deux manières de nous adapter, étant donné qu'on ne peut pas changer grand-chose dans la surveillance de cet événement.
Je suis tenté de revenir sur les conséquences sur la couche d'ozone, parce que la couche d'ozone, c'est le parapluie qui permet de bloquer un peu les rayonnements solaires directement sur la Terre ou sur les humains.
Effectivement, la couche d'ozone, c'est une couche vraiment bénéfique pour la vie sur Terre. Mais la couche d'ozone ne freine pas tous les rayonnements, ne freine pas tout le spectre. Ce sont les rayons ultraviolets qui ont pour effet de brûler la peau. C'est ce rayonnement-là qui est, disons, filtré par la couche d'ozone. Les autres parties du rayonnement arrivent sur la Terre. Mais vous savez, c'est vrai qu'on se plaint qu'il fait chaud. C'est vrai, il fait chaud. En termes de valeur numérique, en janvier 2024, on a connu une hausse de plus de 1 degré par rapport à ce qu'on observait régulièrement. Donc, il y a une hausse. Mais cette hausse-là, quand on se retrouve à Abidjan, dans les agglomérations, on le sent ça plus que quand on est en campagne. Mais pourquoi? Parce que tout est asphalté, les murs, les rayonnements solaires qui arrivent sur le sol sont emmagasinés dans ces structures-là. Et puis, après la nuit, ces structures réémettent en infrarouge et ça crée la chaleur. J'ai parlé tout à l'heure de la végétation. C'est par rapport à tout ça. La végétation aurait pour rôle d'atténuer, en tout cas, ces rayonnements.
Mais pour aller dans un autre sens, ces temps-ci, on parle de dengue. Donc, on demande à la population de verser l'eau qui stagne et d'éviter des plantes dans les maisons. Comment on peut concilier ces deux aspects?
Oui, ça c'est très, très, très important comme question. Parce que nous suggérons qu'on conserve l'eau et d'autre part, il y a le problème sanitaire, la dengue. Puisque, disons, les larves se développent dans les eaux stagnantes ou bien les eaux dormantes. Mais il y a la chimie qui est là. C'est-à-dire qu'il faut traiter quand même l'eau. Parce que même quand j'ai dit de conserver l'eau et d'utiliser, ce n'est pas l'eau brute qu'on doit utiliser. Il faut traiter l'eau. Il faut aseptiser l'eau de telle sorte que tout ce qui est source de maladie puisse disparaître. C'est vrai, les larves se développent dans les larges feuilles comme les feuilles de bananier, les feuilles de tarot, tout ça, tout ça, tout ça. Mais de toute façon, l'homme doit s'adapter et l'homme doit travailler à améliorer son environnement et l'homme doit aussi travailler à ce que sa vie soit meilleure. Donc, c'est l'intelligence qu'on va utiliser pour vraiment concilier tout ça. Toutes les sciences doivent concourir au bien-être de l'homme. Donc, il y a des compromis à faire.
Existe-t-il d'autres technologies innovantes pour surveiller et prévoir ce phénomène météorologique extrême qu'est la forte vague de chaleur et bien d'autres?
Oui, c'est la raison d'être du service météorologique. Le service météorologique, de par sa mission, c'est de faire une veille continue sur le climat. Pour faire cette veille continue, il y a un réseau de mesures au niveau national, un réseau de mesures au niveau international, parce que nous échangeons les données. Donc, les stations météorologiques qui sont disséminées à travers, par exemple, la Côte d'Ivoire, dans ces stations météorologiques, nous mesurons à chaque heure les paramètres, notamment la température, qui est l'indicateur de la hausse ou bien de la baisse de la chaleur.
Alors, lorsque vous mesurez, qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous communiquez aussi?
Oui, quand nous mesurons, nous concentrons les données, nous les analysons parce que on a une panoplie. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons, par exemple, une vingtaine ou une trentaine de stations. On va les mettre tous ensemble. L'analyse, c'est une activité très, 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 très rude. Puisqu'on va travailler, on va analyser station par station, on va analyser l'évolution temporelle dans le temps, on va analyser l'évolution spatiale. Et lorsque on fait toutes ces analyses-là, il faut maintenant tirer les conclusions. Et ces conclusions-là, nous mettons ça dans les rapports, dans les notes d'information, les bulletins, et que nous communiquons. Chaque jour, sur la chaîne nationale, nous communiquons les valeurs, la température. Mais ce n'est que la face visible de l'iceberg. Le travail, il y a d'autres documents stratégiques que nous élaborons, soit pour l'État, soit pour les structures spécialisées, comme le ministère de l'Environnement, comme les eaux et forêts.
Monsieur Diakwaku Bernard, lorsqu'il y a des dommages qui ont été causés, quelles sont les pratiques résilientes au changement climatique qu'on pourrait adopter pour combler ou réparer ces dommages?
Ce serait vraiment prétentieux de ma part de dire de manière exhaustive ce qu'il y a à faire, parce que les questions du changement climatique sont des questions transversales. La part qui nous revient, c'est de faire l'analyse scientifique. C'est le travail que nous faisons au niveau du GIEC. Maintenant, quand on a fait l'analyse scientifique que nous mettons à la disposition du gouvernement, il y a le ministère en charge de l'environnement qui mène la politique maintenant de comment s'adapter. Parce que la politique d'adaptation est sectorielle. L'adaptation au niveau de l'agriculture, l'adaptation au niveau de l'énergie, l'adaptation... Donc, le ministère en charge de l'environnement, en se basant sur les résultats scientifiques que nous avons, édite un document, parce qu'on fait des communications nationales, donc c'est un document que le ministère édite, avec notre concours d'ailleurs, et ce document-là devient le guide pour que chaque secteur puisse utiliser les résultats pour sa politique d'adaptation.
Concernant la politique d'adaptation, comment est-ce qu'on pourrait impliquer les populations dans cette lutte-là contre le réchauffement climatique?
Ça, c'est fondamental. Les changements climatiques sont un phénomène d'échelle globale, mais effet local. L'effet est local. Quand on parle de réchauffement, quelqu'un qui est à Bobo, quelqu'un qui est à Korogo, quelqu'un qui est à Abidjan, nous tous, nous sentons le réchauffement. Mais pour pouvoir s'adapter, il faut être au niveau local. Celui qui est à Yamoussoukro, il a ses préoccupations. Celui qui est à Boisseau, il a ses préoccupations. Celui qui est à Bouna, il a ses préoccupations. Et les préoccupations, c'est en fonction de son activité. Celui qui fait l'agriculture, il doit voir comment est-ce que ces changements climatiques-là affectent son activité. Est-ce que moi, qui produis le riz, ou bien qui produis le maïs, hein, c'est mon activité principale, à quel moment je dois s'aimer? Quelle variété de cultivar, c'est le riz ou le maïs, quelle variété je dois utiliser? Je m'attends à quoi pour la fin? Donc ça, c'est l'agriculteur. Celui qui est éleveur, comment est-ce que je peux trouver de l'eau pour mes animaux? Mes animaux, ils vont perdre où? Donc, l'éleveur, il prend des dispositions. Donc, vous voyez que l'éleveur n'aura pas la même façon de se comporter comme l'agriculteur. Celui qui gère l'énergie, comment est-ce que il va gérer les barrages? On s'attend à ce qu'il y ait moins de pluie. Lui, il doit fournir l'électricité en quantité pour que les usagers puissent s'en servir. Les barrages hydroélectriques, Ayamé, Kossou, Soubré, ont une baisse de niveau d'eau. Comment il fait? Le fait qu'il ait eu l'information, ça lui permet de voir peut-être avec d'autres fournisseurs d'énergie à gaz. Ah, en tout cas, il faut nous faire l'approvisionnement. Parce que dans 3 mois, le bassin d'eau va tarir, de telle sorte que lui, ses activités puissent continuer. Donc, le changement climatique, comme je l'ai dit, est un phénomène global, mais l'adaptation est locale parce que son effet est local.
Pourriez-vous nous donner encore d'autres exemples?
Les forêts.
Oui, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, on peut parler des forêts.
On peut parler des forêts. Parce que chez nous, la destruction de la forêt est un phénomène. D'abord, en Côte d'Ivoire, la destruction de la forêt fait partie des causes, n'est-ce pas, de réchauffement, puisqu'on a coupé, pour faire la plantation. On veut avoir l'argent, c'est vrai, mais on a coupé de manière, disons, incontrôlée. Si bien que ce que nous avions pensé être une action ou bien une activité bénéfique, on commence à avoir des conséquences négatives. Donc, les responsables des eaux et forêts, aujourd'hui même, vous savez qu'il y a des plans ou des programmes de reboisement. Donc, le reboisement même fait partie des grandes stratégies, n'est-ce pas, d'adaptation. Mais, comme j'ai dit que l'effet est local, si vous voulez faire du reboisement et que la population qui va vivre dans cet environnement ne se sent pas à l'aise parce que vous plantez du bois, donc, aujourd'hui, on conseille, n'est-ce pas, des essences qui peuvent servir à la population. Du coup, on atteint 2 objectifs. L'objectif de séquestration du carbone, donc ça va réduire un peu l'effet de la température. Et puis, la population riveraine gagne un peu d'argent parce que le bois de, par exemple, Akpi, il y a beaucoup d'essences pour lesquelles on peut valoriser les fruits et que ces essences-là aussi vont contribuer, n'est-ce pas, à la séquestration du carbone.
Et au niveau du transport?
Au niveau du transport, L'un des secteurs les plus fournisseurs, les grands fournisseurs de gaz à effet de serre, donc du réchauffement global, c'est le milieu du transport, l'aviation, les transports terrestres, avec parce que la plupart de nos moteurs émettent. Donc, les stratégies d'adaptation, d'atténuation, c'est de réformer la technologie des moteurs. C'est pourquoi aujourd'hui même, dans beaucoup de pays, les gens travaillent à ce qu'il y ait des moteurs hybrides. Partie essence, partie gaz, bon, ou bien même moteur électrique. Donc, c'est un grand chantier parce que ça mérite, ça nécessite en tout cas une innovation technologique assez élevée. Donc, c'est déjà des coûts. C'est pourquoi d'ailleurs, tous les pays ne peuvent pas s'y aventurer comme ça. Mais les grands efforts sont faits, notamment les grands pays comme la Chine. Il y a le Japon, l'Europe aussi n'est pas en reste. Enfin, en tout cas, les grands pays s'investissent à travailler sur la technologie afin que l'émission de gaz à effet de serre puisse être assez réduite.
Dernière question, Monsieur Diakwaku Bernard. Le réchauffement climatique n'est pas près de s'arrêter et nous devons apprendre à vivre avec, à l'instar du sida ou de la COVID-19. Qu'en pensez-vous?
Qu'est-ce que je pense de cette comparaison-là? Je pense que les épidémies ou bien les fléaux dont vous parlez sont des fléaux pour lesquels la communauté mondiale a cherché à trouver des solutions. Et si je me rappelle bien, la COVID, par exemple, est apparue. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle, mais on en parle de moins en moins. Le sida est apparu dans les années 80, là-bas. On en parle de moins en moins. Mais le changement climatique, on en parle de plus en plus. Alors que c'est depuis les années 70, là-bas, que la communauté scientifique a fait ressortir vraiment les frémissements, les signaux de ce réchauffement-là. Et on en parle. Et on en parlera. Parce que c'est un phénomène environnemental. Et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dedans. Quand on a parlé de la COVID, on a parlé, par exemple, d'un virus, n'est-ce pas? Donc, on sait que c'est un virus. Donc, on cherche la solution pour, disons, neutraliser le virus. Le changement climatique a plusieurs sources. Et aussi, faut le dire, les intérêts sont en jeu aussi. Parce que nous parlons des émissions de gaz à effet de serre produites par l'utilisation massive des énergies fossiles. Cette utilisation massive des énergies fossiles, c'est le développement. C'est depuis qu'il y a eu l'ère industrielle. Donc, les différents États ont bâti leur économie autour de cela. Si aujourd'hui, nous remettons tout cela en cause, mais ça ne va pas aller, tout le monde va pas aller dans le même sens. Vous vous rappelez que même aux États-Unis, je crois, le président Trump avait même émis des doutes sur la véracité de ce changement climatique et il a commis même des scientifiques pour écrire des rapports contre. Mais comme la science est têtue, même cette commission-là est tombée sur les mêmes résultats que nous pour dire non, le changement climatique est réel. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire la comparaison. Il faut travailler à changer les esprits. Parce que, n'oublions pas que nous avons notre part. Je disais tout à l'heure qu'en Côte d'Ivoire, on a fait beaucoup la déforestation. Si nous pouvons, que ce soit au niveau étatique ou au niveau de la population, nous pouvons nous convaincre que la déforestation contribue au réchauffement climatique et que en faisant une reforestation, en plantant de nouveau les arbres, ça va nous aider. Ça, c'est déjà important. Si, au niveau étatique, on met une politique d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie propre, en guillemets, l'énergie renouvelable, éolienne, l'énergie même nucléaire, au lieu d'énergie d'origine fossile, ça, ce serait vraiment une avancée. Parce que, en réalité, les changements les plus importants, c'est quand ça se passe dans la tête, là, le raisonnement. Une fois que l'esprit a admis qu'on doit changer, l'homme se donne les moyens pour changer.
En résumé, en conclusion, que pouvons-nous dire sur cette forte vague de chaleur qui sévit en ce moment en Côte d'Ivoire?
Eh bien, en résumé, on peut dire que faut pas s'alarmer outre mesure, parce que même si l'observation montre qu'il y a une flambée de chaleur, mais faut pas s'alarmer. C'est pas la première fois. C'est pourquoi je vous ai indiqué les années, et même 2021 a été l'année la plus chaude.
C'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais ça s'en va crescendo.
Oui, ça s'en va crescendo. C'est pourquoi je dis, il faut que l'homme accepte le fait que le climat change, parce que c'est dans la mentalité. Il faut qu'on accepte que le climat change. Il faut pas qu'on s'alarme. La période est chaude. Les facteurs exogènes font qu'on sent de plus en plus. Mais en tout cas, le suivi de ce phénomène-là indique que d'ici avril, nous allons rentrer dans une situation normale. En tout cas, je pense que cela peut rassurer et vous et moi-même.
La forte vague de chaleur qui sévit en ce moment en Côte d'Ivoire est liée à la crise climatique, au changement climatique. C'est l'une des conséquences phares. À l'instar d'autres fléaux des temps modernes, le changement climatique est devenu notre nouvelle réalité. Il a des conséquences sur absolument tous les aspects de la vie. Dans un futur proche, l'on va assister à une spirale infernale si rien n'est fait. Le réchauffement climatique n'est pas près de s'arrêter et nous devons apprendre à vivre avec. Je recevais à l'instant Jer Kwaku Bernard, chef du département de la climatologie et des applications météorologiques à la Sodexam. Il est également le point focal du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Il est aussi membre du groupe permanent de l'Organisation météorologique mondiale sur les services climatiques. Monsieur Jer Kwaku Bernard, je vous remercie.
Merci, madame.
À la technique, il y avait Antoine Kouassi, Marthe Kakou à ce micro. Merci de votre attention et à bientôt.
C'était l'entrevue
Radio de la Paix.